Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 12 du Souterrain. Vous êtes avec Matraque pour ce nouvel épisode. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on a au programme? On va avoir je vais poursuivre ce que j'avais dit au dernier épisode, c'est-à-dire les conseils par rapport aux erreurs à éviter quand on est en tant que Ben, les erreurs qu'on doit éviter quand on est justement sur les... ça va être plus sur les réseaux sociaux et Internet ce soir. Le premier bloc était plus... par rapport à la production, la sortie, les sorties et tout. Donc, c'est ça. Je veux saluer premièrement, vous tous les auditeurs, mais aussi ceux qui ont pris le temps de m'écrire la semaine dernière par rapport à cette intro-là et qui m'ont... c'était quand même réconfortant de voir que je ne suis pas le seul qui a fait ces erreurs-là. Donc, si ça peut permettre à d'autres musiciens d'éviter ces troubles-là, ben tant mieux. Donc c'est ça, ça va être la suite ce soir. On va avoir aussi la chronique Gear avec Doom, qui va nous donner un sujet. J'ai aucune idée ça va être quoi le sujet. Donc mes chroniqueurs ont carte blanche, donc on va voir qu'est-ce qu'il va nous concocter pour cet épisode-ci, ainsi que le top 3 à Régis, le top 3 à Pierre-Yves, qui va nous faire part de ses découverte du mois. Il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de sorties, je trouve. C'est à la fin de l'année, contrairement à... Tu sais, le début de l'année a commencé un peu mollo. Là, on a vraiment un pic de sorties. Bref, il va nous faire part de ces trois sorties coup de cœur du mois. Et donc, c'est ça qui est au programme pour ce soir. Donc, sans plus tarder, moi, j'y vais avec la deuxième partie de l'éditorial à propos des erreurs à ne pas faire en tant que band. OK, donc, le premier point par rapport à ça, c'est annoncer une annonce. Écoutez, on s'entend, là, annoncer une annonce, ça donne absolument rien. Le seul moment où ça peut être pertinent d'annoncer une annonce, c'est justement si ça se fait dans les 24 prochaines heures. Exemple, si vous décidez de faire un Facebook Live, ou vous avez une chaîne YouTube puis vous voulez avoir, tu sais, vous voulez faire un live, et ben là, à ce moment-là, tu sais, à 24 heures d'avis, c'est quand même, ça peut servir de faire une annonce comme quoi, bon, regardez, demain, on a un gros coup à partir de telle heure. Ça, dans ce cas-là, c'est très compréhensible, puis effectivement, ça va peut-être contribuer à aller chercher un gros hype et aller chercher un plus grand reach pour cette annonce-là en tant que telle. Par contre, si c'est pas fait dans les 24 heures, ça donne absolument rien, parce que dans le fond, tu crées un intérêt pour ton fanbase, puis ben tu livres rien. Fait qu'en livrant rien, nécessairement, sans que ça soit des grosses déceptions, à un moment donné, les gens vont juste pas suivre. Et là, si tu fais des annonces d'annonces souvent, puis que ça aboutit pas, au final, ça donne en sorte que à toutes les fois que tu vas faire des nouvelles annonces, le monde va toujours un peu plus s'en calisser. Donc, c'est vraiment important, selon moi, de... Je reviens à mon point. T'sais, la conclusion que j'avais à la dernière introduction, c'était « faut que ça fasse boum ». J'ai encore la même opinion. Faut que ça fasse boum. Donc, on annonce une annonce seulement si on a de quoi faire officiellement en live ou que c'est un événement spécial, sauf que sinon, c'est vraiment de... On fait l'annonce quand elle est prête, puis that's it. Tu drops, tu sais, tu lâches ton information, drop de mic, puis that's it. Les gens se l'approprient ou se l'approprient pas, mais la nouvelle est déjà sortie. Ce que tu avais à faire est fait. Donc, ensuite de ça, une fois que c'est sorti, c'est plus ton problème, tu sais, je veux dire, le public est rendu libre de soit le prendre ou pas, mais toi, t'as fait ta partie, puis ton côté, ton effet, boum, ça a contribué à ça, là. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, je voulais dire, être, tu sais, trop émotif, et là, je me suis pris une note, on s'en calisse, et je m'explique par là. Souvent, tu sais, tout le monde qui a un groupe, là, on a un peu tous le même... procéder, tu sais, on va builder nos affaires, on travaille sur nos choses, on va construire ça tranquillement, pas vite. Et là, il y a tout le temps une nouvelle toune. La nouvelle toune, c'est tout le temps celle-là qui est ta préférée jusqu'à temps que tu aies une nouvelle toune. Tu sais, ça, si ça fait pas ça, en tout cas, moi, je pense qu'il y a un problème, là. Sauf que, tu sais, chaque nouvelle chanson est supposée être un hype de plus pour les membres du band. Sauf que ce hype-là, c'est pas de quoi que tu as besoin de partager. Tu sais, c'est quelque chose, c'est un bel accomplissement de Ben, mais ça finit là. Pour la fan moyen, là, c'est... Là, je donne l'exemple d'une nouvelle chanson, mais tu sais, des petites avancées pour le Ben, là. Tu sais, à la limite, on s'en fout. Présente tes affaires quand c'est prêt. Des fois, les groupes vont faire des publications. Tu sais, il y a une différence entre poster ça sur ta page personnelle de Facebook ou poster ça sur la page du groupe. Fait que, tu sais, il y a des affaires qui pourraient être publiées sur des pages perso. Tout le monde, tu sais, personne prêterait attention, personne aurait de commentaires à propos de ça. Sauf que quand vous faites une micro-nouvelle avec votre page Facebook, encore là, ben tu sais, vous venez titiller un peu le monde pour pas livrer grand chose, fait que ça donne quoi? Tu sais, c'est encore là, tu sais, dans l'effet, faire boum, là, ça fait pas boum. Fait que pourquoi faire un move trop émotif? Donc, c'est ça. Souvent, les gens vont peut-être annoncer, ben gars, ça va avec mon troisième point, c'est annoncer des collabos trop tôt. Mais c'est cool, mettons, d'avoir une entente avec, ne serait-ce que ça soit un groupe pour faire un split ou avec un musicien invité qui va te dire oui, tu sais, puis que c'est quelqu'un que t'es content d'avoir sur ton album et tout. Ben, vends pas la nouvelle de suite. Garde ça pour faire un gros hype quand ton album sera prêt, tu sais. Tu sors ta nouvelle à propos de ton invité sur l'album, t'attends une couple de jours, tu fais un autre post, là, t'essayes de fournir un peu comme ça. Ça t'amène du jus, ça amène de l'eau au moulin, ça, c'est intéressant. Si tu comptes, tu sais, si tu dévoiles déjà que t'as un invité sur ton album 6 mois d'avance, ben encore là, ça fait pas boum. L'effet de surprise, il est pas là quand ça sort, fait que ça peut être un peu... En tout cas, moi, je trouve que c'est une façon peut-être de brûler un punch inutilement, tu sais, fait gardez vos munitions pour les affaires qui valent vraiment la peine. C'est sûr qu'aujourd'hui, bon, il y a plein de monde qui vont faire des stories, Instagram et tout ça, puis là, ça va être en studio, on tape un petit bout. Bon, OK, tu viens de teaser ton auditoire qui va avoir un invité. Mais tu sais, si t'en as 2-3, c'est correct, tu viens d'en brûler un. Mais si t'en as juste un, essaye de pas brûler ça, tu sais. Et si t'es en studio, ben fais un Facebook Live ou une story de ton drummer en train d'enregistrer. On le sait que le drummer va être sur toutes les tunes, là. Tu brûles pas un invité avec ça. Fait que c'est dans le choix aussi de ce qu'on va partager. Puis ça, ben, ça m'amène aussi à l'autre point aussi par rapport au fait d'être trop émotif. Il y a une affaire qui me fait toujours sourire, tu sais, parce que, encore là, puis on peut pas en vouloir au monde d'être positif puis d'être content puis motivé avec leur projet. Sauf que les gens souvent vont eux-mêmes monter les attentes. Tu sais, il y a une mince ligne entre la confiance puis l'arrogance, OK? Puis, ben dans le cas de l'arrogance, ben c'est ça. Tu viens premièrement, en étant arrogant dans tes propos, dans ton post et tout, tu viens de monter la barre et, ben si tu te pètes les dents, ça va faire encore plus mal. Être confiant, c'est sûr que c'est la clé du succès aussi. Là. Si t'as pas confiance dans ce que tu fais, c'est en partant, il manque de quoi dans ta démarche. Sauf que pour ça, on n'a pas toute la même façon de saisir l'information, notamment l'enthousiasme des gens. Fait que pour certaines personnes, ce qui est être vraiment craqué, pour d'autres, c'est de l'arrogance pure et simple. Donc ça, là. Ça vient en fait de monter les attentes et tu sais des posts comme oh, on va sortir le meilleur album puis tu sais on pas besoin de le dire là. Le but c'est que chacun de tes nouveaux albums comme chacune de tes nouvelles chansons soit la meilleure tune ou la meilleure album que tu as fait à date. Le but c'est d'évoluer. C'est pas une nouvelle d'annoncer que ça va être ton meilleur album sauf qu'en l'annonçant tu viens comme de monter les attentes puis là ben les gens ont déjà des attentes, notamment pour un produit, un band qui roule, tu sais. Le monde s'attend à quelque chose. Un projet qui démarre, ben là, c'est encore pire, je trouve, parce que, justement, les gens savent pas trop à quoi s'attendre. Puis là, tu vas toi-même monter la barre des attentes en partant, en dévoilant telle ou telle information. C'est de quoi qui peut facilement se revirer contre le projet, tu sais. Puis, ben, ça revient au fait d'être trop émotif et tout. C'est le genre d'affaire que monter les attentes soi-même, là, le public va les monter, inquiétez-vous pas. Fait que donnez-vous une chance d'être capable de répondre à cet intérêt-là. Puis, ben, c'est là aussi que, tu sais, l'expression ça dépasse mes attentes, ben, c'est ça. Si vous donnez vraiment un gros coup de crowbar dans le pâté au saumon, puis que ça frise partout, tout le monde va se dire bon, ben, garde, ils ont vraiment dépassé mes attentes. En ayant monté vous-même la barre au début, le même album, le même produit va en décevoir plusieurs. T'sais, fait que c'est ça, il faut savoir doser un peu dans sa façon de faire son marketing à quelque part. Donc ensuite de ça, l'autre point que j'avais, c'était... Ah oui, annoncer des affaires qui touche le groupe par tes réseaux sociaux alors que les personnes ne sont pas au courant. Tu sais, exemple, des fois, une chicane peut pogner dans un groupe, puis là, ben, il y a quelqu'un qui décide d'annoncer que tel membre se fait virer. Et là, ben, le membre l'apprend par la page Facebook, ou tu sais, il y a quelqu'un qui écrit pour dire « Hey, c'est vrai, j'ai eu un post sur telle page », puis... Fait que là, tu sais, t'apprends que... ben, c'est ça, la personne, ben, t'apprends, ça m'est jamais arrivé, sauf que je connais des gens qui c'est déjà arrivé, et t'apprends que tu te fais virer par Internet... Les d'autres personnes qui sont pas impliquées se ramassent à t'apprendre que t'as plus ta job. C'est vraiment quelque chose de, c'est de poche. Disons ça simplement, c'est poche. Ça, le fait aussi de, des fois, quand on deal avec des labels et tout, que t'apprends ta sortie d'album parce que le label l'a publié puis que toi, ben, tu le savais pas. Puis là, il y a quelqu'un qui t'écrit en disant, hey, c'est cool, j'ai hâte de commander tel album. Puis là, tu fais, ouais, ben, garde. Je sais pas c'est où que c'est rendu, puis là c'est comme ah mais je l'ai commandé, puis la personne t'envoie le lien, puis tu fais ok, c'est déjà annoncé là, tu sais, je suis même pas au courant, puis c'est moi qui joue sa galette là. Fait que ça m'est déjà arrivé, et ça aussi c'est poche. Ensuite de ça, avant-dernier point, c'est les deux derniers points sont liés ensemble. J'avais marqué des posts qui sont hors d'ordre ou insignifiants. Et l'autre point qu'on pourrait mélanger avec ça, c'est des posts qui sont pas liés au marketing du band. Ça aussi, on s'en calisse. T'sais, ton groupe, il est supposé, je n'ai déjà parlé dans les autres épisodes, je vais pas me répéter, mais t'sais, ton groupe est supposé, ton logo, ton imagerie de groupe, c'est supposé dégager quelque chose qui transpire, entre guillemets, ta musique. C'est supposé bien représenter ta musique. Ben là, si t'essaies de faire un projet qui obscur ou, tu sais, qui est plus dans le mettons, l'occulte et tout, ben, si t'es dans un projet qui est dans l'occulte et tout, puis que tu fais des stories Instagram à tous les deux jours, on s'en calisse. Tu viens de le tuer, ton côté mystérieux, le côté... l'espèce d'aura que t'essaies de mettre autour du projet, tu viens toi-même de mettre la hache dedans en agissant comme ça. Puis tu sais, regarde, il n'y a pas de tort à utiliser les réseaux sociaux pour un groupe, là, même que dans une certaine mesure, si tu l'utilises pas, ben c'est un outil que tu prends pas. Il y a des projets qui décident de pas l'utiliser, et grand bien leur face, là, il y a certains projets pour lesquels ça fait à merveille qu'il n'y ait pas de réseaux sociaux. Il y en a d'autres que ben ça va aider à la promotion puis tout. Puis encore là, ça dépend de c'est quoi l'objectif de ton groupe. Tu sais, qu'est-ce que tu as comme objectif à court, moyen, long terme pour le band? Sauf que souvent, ce que les gens oublient, tu sais, dans le fond, tout ce que je viens de vous parler là, c'est des affaires qui tuent l'aura autour du nom du projet, le mysticisme autour du nom du projet et tout. Donc, puis encore là, tu sais, on fait l'imagerie du groupe. Ça fait appel à l'imaginaire des gens. En allant mettre ta grosse face, en faisant des stories, puis tout, à tous les deux jours, ben, tu viens un peu de tuer toute cette imagerie-là parce que t'as mis ta grosse face, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est ça. J'ai un peu. Il y a des projets qui me donnent un peu de. Avec lesquels j'ai un peu de misère à cause de cette espèce d'aspect-là. Tu sais, un des exemples que je pourrais donner majeur, là, c'est comment Behemoth est rendu avec Nergal qui fait des stories à peu près à tous les jours, puis qui se pose aux chiottes, qui se pose dans l'autobus, qui se pose au gym. Bon, c'est correct, tu sais. C'est bon, ça, les croquettes pour chiens, tout, vous allez me dire. Mais c'est ça, là. On n'a plus l'aura de mysticisme qu'il y avait autour de cette benne-là dans les années 90, début 2000. On est vraiment rendu à. Ben, moi, je les appelle les kisses du death metal parce que, bon, c'est plus black metal vraiment. C'est, tu sais, ils ont conservé la thématique un peu, tu sais, sataniste et occulte et tout, mais c'est clairement rendu du death metal, là. Quoique, il n'y a pas de tu sais, il n'y a rien de mal là, sauf que c'est carrément rendu les kisses du death, tu sais, c'est ça. Il n'y a plus l'aura. Il y a plusieurs bands, ça, je vous donne un exemple vraiment cliché puis à l'extrême, là. Mais il y a plusieurs groupes de plus petite envergure, de moyenne envergure, qui vont aussi se tirer dans le pied en faisant des posts insignifiants ou hors d'ordre, puis qui vont totalement à l'encontre de l'imagerie qui essaye de promouvoir. Fait si tu veux que ton imagerie accole sur le produit, faut que. Tu sais, on dit en politique, faut que les babines suivent les bottines suivent les babines. Ben, c'est ça, là. Tu me présentes de quoi? Je m'attends à quelque chose du genre. Si tu vas faire de quoi de full sérieux, pis tout, c'est sûr que si tu fais ça, t'as un projet, puis que c'est de l'autodérision, puis vous prenez pas au sérieux, puis tout, puis que bon, tu fais des conneries en story Instagram, ben à la limite, ça fit, fait que c'est pas grave. Mais c'est les projets que c'est plus dans justement l'occulte, le satanique, là. Les projets plus. Obscur, là, qui joue la carte obscure et tout. T'sais, c'est correct. Regarde, il y a un marché pour ça, il y a un public pour ça, puis c'est bien parfait. Sauf que ces gens-là tuent le mysticisme. Et ça, ben, encore là, pour conclure cet édito-là, ben, pourquoi tout ça, c'est important de pas faire ça? C'est parce que justement, quand tu veux que tes choses sortent, tu veux que ça fasse boum. Et c'était donc mon édito sur les erreurs à ne pas commettre en tant que band, notamment avec les réseaux sociaux. Et là, ben c'est quelque chose, j'espère que ça vous aura donné un peu de une coupe de cue par rapport à ça, parce que c'est de l'info que j'ai accumulée un peu en jasant avec des musiciens autour de moi dans les dernières semaines, et je me suis rendu compte que c'était plus répandu qu'on le croyait. Donc, c'était mes deux cents sur le sujet. Et là, ben nous, on s'en va entendre Anternoz, le groupe breton. C'est une pièce qui s'intitule « Orage d'acier », c'est tiré d'un album paru en 2010 qui s'intitule « Linceul d'écume ». Et on vient donc d'entendre Les Bretons d'Anternoz. Et là, sur ce, nous autres, on s'en va jaser Gear parce que c'est le moment de la chronique Gear avec Doom Tremblay. Salut Doom, comment ça va cette semaine?
Salut, ça va super bien, toi?
Yes, ça va bien. Et là, ben, cette semaine, tu voulais nous parler de vieilles affaires, de vintage. Fait que je te laisse aller avec ça.
Oui, dans le fond, le but puis l'angle que je veux adopter cette semaine, c'est le vintage. Le jeu en vaut-il la chandelle? Ça vaut-tu la peine? Mm-hmm. Puis qu'est-ce que ça peut apporter? Puis quels sont les avantages et les inconvénients?
OK.
Dans le fond, c'est un peu simple, là. C'est où à peu près que je veux parler là-dedans, c'est dire est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher l'instrument vintage de tes rêves à toi pour que ça devienne ton instrument de tous les jours, dans le fond. C'est un peu ça que je veux revenir. Ouais.
OK. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine?
Est-ce que ça vaut la peine? Ben, écoute. Moi, personnellement, je te dirais que ça vaut la peine tout dépendant de ce que tu peux faire avec.
Okay.
Ce que je veux dire par là, c'est le vintage, ça le dit, c'est des instruments qui sont 30 ans et plus. OK? Mm-hmm. C'est quelque chose qui est souvent usagé, évidemment, ou qui a dormi très, 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 très longtemps, évidemment aussi.
Ouais.
Donc, je tiens à mettre un gros bémol sur la fiabilité de ta machine, autant ampli, autant console, autant micro, autant n'importe quoi.
Ouais, ben c'est un peu comme les gens qui achètent des vieilles voitures, sont obligés de faire un tuning avant d'aller prendre une ride, puis en revenant, là.
Absolument, puis aussi, faut prendre en considération que c'est pas toujours le cas, mais souvent, des quelque chose de vintage, ça fait longtemps que ça n'a pas été utilisé, et là, tout d'un coup, on le réutilise de manière, disons, plus intense.
Ouais.
Donc, c'est là que ce qui fait sortir les petits bobos, admettons.
C'est ça. Comment
on dit ça? Que... Ah oui, oui, c'est exactement ça. Fait que tu sais, c'est un peu à ça là, que je voulais en venir. C'est-à-dire que, ben, vous le savez, on a déjà parlé aussi, puis si vous connaissez moindrement là, le monde de l'électrique, il y a un paquet de petits fils, il y a un paquet de soudures, il y a un paquet de petits connecteurs, il y a une sorte de choses. Puis écoute, comme un vieux char, ben ça rouille, ben dans les instruments, ça oxyde, parce que, tu sais, bon, évidemment, c'est pas toujours de l'acier, là, mais ça oxyde, puis vous pouvez vous ramasser avec des problèmes de connexion, puis tout ça. Fait que moi, mon opinion sur ça, c'est à la base, si vous faites des shows régulièrement, est-ce que vous voulez traîner quelque chose dont la fiabilité est peut-être un petit peu plus, disons, douteuse?
Ouais.
Au quadruple du prix d'un instrument neuf qui ferait possiblement la même job, tu sais, moi, je vous conseillerais peut-être pas la machine vintage par excellence. Puis, tu sais, pour en avoir personnellement, tu sais, j'ai un ampli Gibson Skylark 5 watts 1961. Ben, tu sais, cet ampli-là, présentement, il est tout original encore, OK? Puis à l'époque, ils n'avaient même pas la peine de faire un ground sur la prise à courant. Donc, je veux dire, il sonne très bien, là, sauf que, tu sais, si t'es pas groundé comme il faut, ben, tu pognes le courant sur tes cordes, littéralement, c'est pas cool.
Ouais.
Tu sais,
ça vient avec la machine, là.
ben oui, c'est ça, ça vient avec, tu sais.
Ouais.
Mais, tu sais, là où ce qui est à son meilleur, puis là où ce que je l'aime d'amour, cet ampli-là, ben, c'est en studio, tu sais. Là, tu peux l'utiliser une fin de semaine, tu fais ce que t'as à faire avec, puis t'es content.
Mm-hmm.
Puis, ça me rappelle aussi, en tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer un nouveau bassiste dernièrement, là, l'ami d'un ami, tu sais, puis tout ça. Puis, je me suis ramassé chez eux, puis après ça, après avoir essuyé un peu de la coulisse de base que j'avais sur le bord de la bouche quand je suis arrivé chez eux en bas, tu sais, de voir une précision 69, puis tu sais, des espèces de dans de guitare de débile à 8 000-9 000 $, tu sais. Après avoir jasé de ça avec, je dis, wow, qu'est-ce que tu fais avec ça, tout ça. Ah, j'en avais plus avant, je collectionnais, mais tu sais quoi, j'ai commencé à les vendre, puis après ça, est-ce que, tu sais, comme il me disait, lui, c'est plus dans le, il fait plus du cover dans la vie, là.
OK.
Est-ce que ça me tente de traîner ma Fender Precision de 8 000 $ dans un bar?
Ben, c'est
pour
ça.
Jouer, tu sais, ça te tente-tu vraiment de faire ça pour ensuite, tu sais, la graffiner, ou qu'il y a un champion qui décide de t'envoyer son Roman Coke dessus, ou, tu sais,
ouais.
C'est toutes sortes de... Parce que c'est des choses qui arrivent, on se le cachera pas, là, tu sais.
Ben oui, ben oui.
Puis ou tout simplement de prendre la chance de te la faire voler, tu sais.
Ben effectivement, parce que quelqu'un qui connaît ça un peu, il va spotter ta guide, puis dépendamment des bars, il y a tout le temps des vestiaires un peu douteux, il y a tout le temps du monde qui ont crissement pas rapport, remettre leur face là juste pour faire, tu sais, soit qu'ils connaissent quelqu'un qui joue puis ils veulent montrer qu'ils le connaissent, ou bien ils viennent juste écornifler, mais peu importe, il y a tout le temps backstage du monde pas rapport.
Absolument.
Il y a tout le temps quelqu'un que tous les membres du groupe ou des groupes se disent, c'est qui cet hostile insignifiant là, et tout le monde pense que c'est l'ami à quelqu'un qui joue, fait que tout le monde ferme sa gueule jusqu'à temps qu'il y en a un qui parle, puis qui parle, puis qui dit, c'est qui ce crapet là, puis tout le monde qui joue se rend compte qu'on sait pas pantoute c'est qui le crapet, tu sais. Fait que c'est
exactement.
Sûr que c'est ce crapet là en particulier qui peut partir avec ta guite,
qui est particulièrement, ouais, qui peut être dangereux. On s'entend, là, moi j'ai encore pour m'en dire qu'il y a plus de bon monde que de mauvais monde dans la vie, mais
Non, ça prend juste un cave pour te faire voler, là, tu sais, même s'il peut avoir 300 personnes intelligentes dans le bar puis respectueuses.
Voilà.
Ben oui,
c'est exactement ça.
Ouais.
Fait que, tu sais, comme un peu, on jasait justement au niveau de la fiabilité, tu sais, pour un ampli, on parle de collecteur, on parle de, après ça, d'essayer de faire réparer ça aussi. C'est un ampli, pour les professionnels qui connaissent ça. Pour les gens d'électronique, c'est un peu de la maternelle pour eux autres. Là, okay? Ce qu'on pensait avec du transistor, puis les plaquettes aujourd'hui, puis du miniature, tout ça, tu sais, c'est simple. Apparemment, tu sais, comme je te dis, moi, je suis pas...
J'ai une question par rapport à ça.
Tu
dis le faire réparer, puis tout. Un peu au même titre où... Il y a deux affaires qui m'accrochent là-dedans. Tantôt, quand tu parles de ton ampli, que bon, toutes les pièces sont originales puis tout.
Mm-hmm.
Et là, on parle de faire réparer ça. Est-ce que ça existe? Probablement que tu vas me dire oui, là, mais moi, je suis pas au courant.
Ouais.
Est-ce que ça existe des genres de geeks, de cours à scrap, de pièces, de originales, de vieux amplis, que tu vas avoir un connecteur 61 de tel modèle, puis que le gars, il l'a dans son tirac?
Ça existe jusqu'à un certain point, mais je te dirais que maintenant, il y a des compagnies qui refont, un peu comme les chars, parce qu'on faisait parler avec le char.
Oui, ben c'est un peu ça l'idée que j'avais en tête, là.
Il y a des compagnies maintenant comme Weber, là, W-E-B-E-R, qui, eux autres, font des amplis avec tous les specs vintage.
OK. Les specs vintage, mais avec du stock nouveau.
Mais c'est du stock nouveau, mais ils répondent à tous les specs de résistance, ils répondent à tous les specs de construction de l'époque, tout ça.
Okay.
Okay? Fait que tu vas avoir vraiment ce qui se construisait à l'époque.
Okay.
Eux autres, ce qui est à savoir, par contre, c'est eux autres, quand tu commandes un ampli, puis tu sais, je l'ai vu faire personnellement, ben l'ampli, ben tu sais, la cave en bois arrive, puis toutes les résistances sont dans un sac, il n'y a même pas de plan, puis regarde-toi avec ça.
Ouais. Okay.
Mais la personne qui l'a fait savait très bien comment que ça allait, quoi faire avec ça. Il était cherché les sématiques, puis il l'a fait. Ça y a pris à peu près une quarantaine d'heures à souder un par un. T'sais, ça a vraiment été beaucoup d'ouvrages, mais ça se fait. Pour un band qui n'est pas, exemple, là, un band qui n'est pas métal, mais je pense qui est assez connu par tous, c'est Black Keys.
Ouais.
Qui sont réputés pour avoir des sons de guitare assez vintage. Eux autres, ils fonctionnent où toutes leurs amplis ont des morceaux Weber dedans. Les haut-parleurs aussi, ils en font. Fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garder ce qui est encore de bon du vintage, mais tout un nouveau, ça va être du Weber qui va être dedans parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la vérité.
Ouais, ouais. C'est parce que dans le fond, on fait souvent, tu sais, je fais le parallèle aussi avec les voitures puis tout, parce que souvent, quand t'as pas la pièce d'origine ou la pièce qui date de l'année, ta voiture, elle va perdre la valeur. Ou en termes d'instruments, j'ai l'impression que, ben premièrement, c'est pas un char, là, fait que la perte de valeur est peut-être un peu différente. Puis j'ai l'impression que, tu vois, je savais pas que cette compagnie-là existait, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, t'es capable d'aller à, j'imagine, un prix correct, être capable de réparer, tu sais, un vieil ampli que tu t'es fait donner par un oncle ou, c'est sûr que le monde qui découvre une Gibson Les Paul 62 dans le garde-robe de grand-papa qui est mort, il n'est plus ben, sauf que... Sauf qu'il y en a encore de ces guides-là qui se promènent, tu sais, puis ces amplis-là, là. Fait que ça se peut que quelqu'un pogne une lock puis que tu tombes dessus à un moment donné. Fait qu'il y a quand même moyen de le réparer, là.
Ben oui, oui, c'est très réparable. Ça, c'est vraiment au niveau technique. Par contre, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que... Dans un ampli, c'est un peu plus simple de garder la valeur en disant, OK, je l'ai restauré, c'est à l'intérieur, tout ça. Une guitare, tu sais, même si une Les Paul, exemple, parce qu'on parle de Les Paul, une Strat, une télé, whatever. Mm-hmm. Ou même, tu sais, on parle de vintage, mais il faut se rappeler aussi que dans les années 80, maintenant, c'est du vintage. Les gens qui trippent sur du Maiden, maintenant, c'est du vintage, tu sais.
Ben oui, ben oui.
Puis, tu sais, les chavelles de ce monde qui étaient à mode dans le temps, tout ça, trouver le bon pont, trouver exactement le pont de la bonne année, que même si tu as 58 000 modèles de Gibson qui ont tous l'air pareils, ben j'ai des petites nouvelles pour vous autres, ils le sont pas.
Non, c'est ça.
Ils ont tous une petite particularité, ils ont tous un petit quelque chose, un alliage de métal, à la limite, qui se voit pas à l'œil nu, mais que, tu sais, à telle année, les ponts étaient faits avec tel alliage. T'sais, quand tu te mets à pousser creux, là,
mais ça tu te rends compte
que c'est un monde qui finit plus. Les clés, de telle année à telle année, Gibson faisait affaire avec telle compagnie de clés, ça veut dire que là, ces clés-là, c'est eux autres, ils sont faits spéciales, tu sais, en tout cas.
Ça peut être aussi niaiseux qu'un morceau était BO une année, puis que, tu sais, ils ont changé. Ils ont pris des ressorts de tel autre shop pendant une année, puis cette compagnie-là, cette année-là, ça a donné des citrons, tu sais.
Ouais.
Pis...
Ben, t'as sûrement déjà entendu des Fender pré-CBS.
Oui, oui.
Bon, pour faire une longue histoire courte, là, juste pour mettre les gens au bon.
Ouais, c'est ça, pour les gens qui sont pas au courant.
Fin des années 60 environ, je veux pas dire de date exacte parce que là, j'ai pas la date en main. Mm-hmm. Fin des années 60, Fender a vendu à CBS, là, CBS, la compagnie qui existe encore aujourd'hui.
La compagnie de télé, là.
Oui, c'est ça, exact.
Exact.
Ils ont acheté ça. Puis, vous êtes sûrement au courant un peu de la façon qu'un micro, qu'un pick-up de guitare est fait. C'est simplement un aimant avec un fil de fer entouré alentour. C'est un électro-aimant. En gros, le principe est ça. Mais quand CBS a racheté ça, ben, les autres, ils se sont dit, hey, on commencera pas à acheter du fil choisi, de blablabla, blablabla. On va acheter des restants de bobines de fil qui traînent là, dans une usine, puis ça va être ça notre fil. On va remonter notre markup, markup étant marge de profit en français.
Exact.
Puis l'affaire va être ketchup. Ben, ça a donné que les premières années de ces guitares-là, post-CBS, ça a donné de la cochonnerie pendant un petit bout. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ça avait vraiment une incidence, puis qu'ils ont décidé de mettre du fil de fer de qualité dans leur pick-up. Tu sais?
C'est rien qu'un
exemple. Mais comme je te dis, c'est quand tu te mets à fouiller dans l'historique d'une marque, tout ça, tu sais, faut comprendre qu'il y a beaucoup plus de détails que ça a l'air à prime abord. Tu sais?
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, moi, ce que je dis, c'est ça. Fait que si vous voulez, mettons, faire des shows, vous avez un band, faites des shows, on s'entend, là, tu sais, des gigs à 5, 10, 15 000... Ça me surprendrait qu'il y ait beaucoup de gens dans notre auditoire qui en font 12 par année.
Écoute, le gros de l'auditoire du souterrain, là, c'est des black metalleux, puis il y a une gig de black metal, là, c'est... Quand t'es bien payé, ça paye 600-700$ pour le ben, là.
Voilà.
Oh, fait que ça vaut-tu la peine? T'sais, moi, j'en fais en crise la tournée, ben là, avant COVID, là. J'en fais de la tournée, puis j'en fais des contrats avec plein de bands, puis j'ai fait plein de sessions pour des bands. Puis tu sais, quand je suis en studio, puis que j'enregistre, je prends ma base à 2500$, puis quand que je suis en tournée, je prends mon rondin de quand je suis au secondaire, qui vaut à peu près 800-900$, là, tu sais. Ça va de soi. C'est ben ça. Oui. Puis, ne serait-ce que, il y a l'argument, tu sais, ben, tantôt, tu parlais, tu sais, oui, tu peux t'en faire voler, sauf que, il y a aussi le fait que tu peux, t'es jamais à l'abri, OK, d'un quelconque bris qui ouais. peut t'arriver. Puis, ben, quand ça t'arrive, puis t'es même pas obligé d'être en tournée, ça peut juste, tu vas faire un show au bord du coin. Ouais. T'arrive un fuck. L'exemple typique là, du monde qui n'ont pas de strap-là et qui apprennent à la dure, c'est-à-dire avec une belle poque sur ta guide, que ben la strap, asti, ça vient slack si t'as pas des strap-là. Fait que ouais. tu sais, c'est le genre d'affaire que moi, quand je vais faire des shows, là, c'est habituellement je prends pas mon Excalibur. Là. Mon Excalibur est chez nous, puis je la prends pour enregistrer. Quand t'écoutes le CD, c'est elle que t'entends. Quand je suis sur le stage, c'est pas celle-là que j'ai. Puis j'ai remarqué pour faire de la gig depuis longtemps que je suis loin d'être le seul qui fait ça. Là. On est plusieurs à faire
ben non,
ça.
Ben non. Puis qui viendra oser te dire en pleine face que pendant une gig, il s'est rendu compte que t'avais pas t'avais pas ton Excalibur cette fois-là. Est-ce que le risque d'amener ton instrument, puis tu sais, on parle de 2500, mais tu sais, dans le vintage 2500, c'est rien, là. Fait que tu sais, est-ce que ça vaut la peine pour une gig, justement, comme tu me dis que tu vas t'en sortir avec 150 piastres et un mal de tête le lendemain parce que t'avais de la bière à draft gratis. Puis, ben, écoute, je dis pas ça pour être condescendant, crains pas.
C'est la réalité, c'est pour ça que j'ai ben oui.
Oh, oui.
Ben, regarde, toi, tu n'as fait des shows, ben, là, on sait très bien de quoi qu'on parle.
Ben oui. Fait que là, tu sais, puis, fait que, est-ce que ça vaut la peine de traîner, tu sais, ton gros kit pour la, peut-être, une personne, tu sais, qui va peut-être se rendre compte de ça, tu sais, à un moment donné, il faut relativiser tout ça, tu sais. Puis au niveau aussi, juste une guitare vintage, là, je veux dire, surtout les guitares, une basse, c'est un peu moins pire, puis encore là, OK, je suis toute réserve, je dirais, un exemple vécu après, mais une guitare vintage, exemple, moi, je connais une gang de monsieur, là, quand je dis monsieur, c'est 65 ans passés. Ils ont un band, eux autres font un show par année. Le guitariste, c'est monsieur, OK? Moi, je l'appelle monsieur, il joue en tabac, OK? Eux autres, c'est des hommages à Hendrix et à Dan Marino, puis tu sais, dans ces années-là.
Oh, Chris, OK.
Oui. Non, ils savent jouer, là, Gary Moore, puis tu sais, ces affaires-là. Monsieur, il joue de la guitare, OK?
Ouais. Lui, les albums de Jimi Hendrix, il attendait la sortie, là.
Oui, puis il les a appris à la sortie, puis il les connaît par cœur aujourd'hui.
C'est ça.
Donc, la différence entre toi et moi, c'est que lui, il a l'ampli du temps, puis il a la Strat 61, puis il a le, tu sais, il a tout le kit. Sauf que, tu sais, sans Strat d'origine 61, ben, tu sais, il fait une tonne avec quand il fait un show, parce qu'après, elle est détionnée, hein.
Ouais, mais je comprends. Mais lui, il l'a acheté jadis, là. Il traîne sa vieille Excalibur, là.
Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, mais quand tu vas voir ce band-là, de toute façon, tu sais, que je n'aimerais pas parce que ça sert à rien. Ils font un show par année, OK?
Ouais.
Ben, il y a à peu près pour 60 000 piastres de stock sur le stage. C'est complètement débile.
Ouais.
Tu sais, il y a une SG dans le temps que ça s'appelait Les Paul encore. T'sais, je veux dire, des affaires, là, que tu vois aujourd'hui. Non, c'est une folie. Là. Moi, je vais là juste parce que pour moi, c'est du gear porn, littéralement.
Oui. Mais ça me fait penser à un client que j'avais dans le temps que je travaillais dans un magasin de musique, puis il me comptait. Moi, là, j'étais dans la vingtaine, et j'étais sur le cul quand il me comptait ça avec une telle désinvolture que ça en était choquant. Puis là, il me comptait que dans les années fin 60, début 70, tu sais, quand t'achetais, lui, il était bassiste, quand t'achetais un ampli de base, ben premièrement, t'achetais du MPEG, parce que c'est rien que ça qu'il y avait. Puis deuxièmement, il y avait rien qu'un modèle, c'était la tête à lampe avec le 8-10 pouces, puis that's it. Il appelait ça un frigidaire. Fait que là, tu sais, il dit, t'allais au magasin, tu demandais un frigidaire. Il dit, ça valait 200$, tu sais, 200$ dans l'argent de l'époque, là.
Absolument, ben oui.
Tu sais, puis il dit, t'amenais ça chez vous, puis il dit, tu sais, tu pouvais pas, c'est un ampli à lampe, là. Il dit, tu pouvais pas jouer à un, là. Tu sais, il dit, t'avais pas le choix de le torcher. Puis il dit, c'était ça, ou ben tu jouais unplug. Aujourd'hui, il y a du monde qui paye des milliers de dollars pour ça. Mais lui, il avait son vieil ampli acheté à 200$ qui traînait dans sa cave puis qui jouait pour le fun de temps en temps. Puis tu sais, c'est du monde demain, il faut que tu achètes vintage, là.
Exact. Oui, oui. Puis ça, c'est ça. C'est si tu veux, ça encore. Mais si tu es un bassiste d'expérience, puis un bassiste qui gigue pas mal, tu vas-tu vouloir te promener avec ton frigidaire 2-3 gigs par semaine? La réponse est non. Aujourd'hui,
ben
tu veux plus ça.
Ben non, c'est
avant,
chiant.
Avant, tu pouvais te promener avec un station wagon aussi gros qu'une vanne un 10 roues dans le temps. Ça, c'est plus le cas. Là, quand on se promène en Yaris. Là,
un station avec les deux panneaux en bois sur le bord.
Absolument.
Là.
Ben, c'est direct lui que j'avais en tête.
Ouais,
ouais, exact.
Ouais.
Fait que, c'est rien qu'un exemple. T'sais, autre temps, autre mœurs, on va se le dire. Mm-hmm. Mais, moi, j'ai absolument rien là, contre le vintage, comme je te dis. Le basement de mon groupe actuel, j'ai une précision 72. Dans un état très honnête. Là, une couple de petites pocs, là, c'est sûr qu'un player, mais tu sais, je veux dire, le manche est plus capricieux.
Ouais. Mais en même temps, c'est normal qu'il y ait des petites pocs de vie puis tout. Tu sais, la personne, tu l'as utilisée, elle n'est pas restée dans le crate pendant 40 ans. Là, c'est...
Non, c'est ça.
C'est
une bonne chose, en fait. Là, ouais. Mais tu sais, comme je te dis, là, les changements de saison sur le manche est plus capricieux un peu. Puis quand tu arrives pour tourner à rod, ben, tu as tout le temps une petite chaleur qui te descend dans le dos, à savoir, elle va-tu casser. Puis, tu sais, je veux dire, c'est toutes des petites choses de même qu'il faut que tu prennes en considération. Puis, un autre fun fact aussi que je trouve qui serait important de parler, là, c'est un exemple, là. J'ai deux exemples de trucs d'instruments de même. Est-ce que, tu sais, mettons les Hofner, là, les fameuses basses violon,
ouais,
qui coûtent aujourd'hui une folie furieuse.
Là. À cause que Paul McCartney a joué avec ça. Là.
Entre autres, oui. Puis, ouais, les Rickenbacker aujourd'hui, à cause des Beatles aussi, qui à l'époque, ouais, ça valait. Mais ces guitares-là, il faut se rappeler que ces gars-là, ils les ont achetées à l'époque parce que c'était les guitares les moins chères, puis les plus chères.
C'est ça.
Pas parce que c'était les meilleurs, tu sais.
Exact.
Tu sais, je veux dire, les mêmes affaires à plus récent, là, dans les années 90, quand la Jaguar est revenue à mode, là. Quand c'est Kurt Cobain qui a ramené ça.
Ouais.
Ben avant Nirvana, une Jaguar, tu pouvais avoir ça dans un pawn shop pour 400$.
Ouais,
ça valait plus rien parce que c'était un fail. C'est dans les années 60, c'était supposé remplacer la Strat, cette guitare-là.
Eh, si bol, il avait mal bêté. C'était-tu l'époque CBS, ça?
Je ne sais pas. Sérieusement, je veux pas te.
Ça serait vrai ce que ça serait.
J'ai une coupe de vieilles annonces vintage, mais c'est ça. Il avait starté ça comme étant la nouvelle affaire technologique. Parce que si tu connais un peu le modèle, tu sais comment il y a de Python là-dessus, puis comment il y a de ci, puis comment il y a de ça.
Ben, c'est une télécommande intégrée, là.
Ah, presque, ouais. Puis, tu sais, il avait sorti ça dans le but, ça va devenir la nouvelle meilleure invention depuis le pain tranché, tu sais. Puis, la plupart des guitaristes sont arrivés, ont dit, il y a bien trop de Python après ça.
Ouais.
La forme est spéciale. Le ci, le ça. Fait que, tu sais, commercialement, sur le court terme, ça a fait un flop.
OK.
Puis il l'appelait dans les années 80 la Pawn Shop Queen parce qu'il y en avait plein. Il y en avait plein d'un pawn shop, puis ça valait une bouchée de pain.
Ouais, OK. Ouais. Ah, c'est intéressant.
Ben, souvent, c'est ça. Fait que, tu sais, puis même Hofner, c'est la même affaire, là, tu sais. À l'époque, c'était simplement parce que c'était des instruments qui étaient cheap. Puis des exemples, tu parlais de McCartney, tu sais, la guitare est faite symétrique, est faite comme un violon, ben c'est assez simple à croire, le monsieur, il était gaucher.
C'est ça. Il pouvait la virer de bord sans trop de problèmes. C'était pas comme une Strat à Jimi Hendrix.
Exactement.
Ouais.
Au début, ben, il avait juste une virée de bord. Après ça, ben, tu sais, ça a l'air qu'il y a eu le budget de s'en faire.
Okay. Mais,
mais, je veux dire, à la base, là, c'est toutes des affaires de même que quand on creuse un peu, qu'on se dit, tu sais, ça vaut, tu sais, puis je l'avais déjà cité dans une autre chronique à un moment donné, mais je jasais avec un de mes chummies, tu sais, qui est un gear geek, là, avec ses amis gear geek, puis tu sais, puis on parlait de vintage, tout ça, puis il me disait, attends un peu, là. Il dit, est-ce que tu penses qu'en 85, ils ont pris toutes les connaissances de Vitry, puis de guitare, puis ils ont tout brûlé ça, puis à partir de là, ils ont refait de la scrap, tu sais?
Ouais.
La réponse, c'est non, là.
Ben non, c'est juste ils ont cherché des matériaux cheap, pas chers, là, à partir de là.
Oui, évidemment que oui, il se fait plus de scrap aujourd'hui, plus cheap. Ouais. Ça, c'est un fait, là, tu sais.
Ouais.
C'est vraiment un fait. Bon, si tu veux un instrument solide, durable et de qualité, tu sais, pense pas à mettre en bas de 1000$.
C'est ça.
Ce c'est impossible, ou presque. Ouais. Tu vas avoir un instrument honnête. Mais tu sais, si tu veux quelque chose, tu dis, moi, je m'achète ça, puis je la garde pour les, tu sais, pour les prochains 25 ans, prends la peine de mettre au moins 1 000.
C'est ça.
Sinon, tu vas être déçu assez rapidement. Tu sais.
Ouais. Oui, ben non, vas-y, finis ça. Puis
Non, c'est ça. C'est juste pour dire, dans le fond, que, tu sais, oui, le vintage, là, oui, c'est quelque chose. Oui, tu arrives en studio. Oui, il y a des pédales à effet qui sont dures à aller rechercher. Tu sais, les Toe Screamer, les vintage, ils ont quelque chose de plus. Tu sais, écoute, un delay écho Roland à bande, ça reste ça, là. Tu sais, c'est dur à aller émuler puis ressortir exactement. C'est tu sors que t'as besoin.
C'est
au nombre de tu sais, mais si t'as pas de personne puis t'as pas le budget de te payer un tech pour réparer ça puis tenir ça en forme, tu vas finir par l'haïr ou juste pas t'en servir parce que c'est pas rentable. Là,
effectivement. OK. Hey, gars, c'est ça. Là, je vois le temps filer un peu, mais je m'en voudrais qu'on se laisse sans qu'on close ça avec, pour les gens qui veulent acheter du vintage, c'est quoi qu'on fait? Connaître quelqu'un, un monsieur qui est dans la soixantaine qui voudrait peut-être vendre son stock, mais autrement, y a-tu des événements? Y a-tu, une page Facebook spécialisée là-dedans?
Les pages Facebook, honnêtement, c'est à faire attention. Pour être à peu près sur toutes les pages Facebook au Québec existantes d'instruments de musique, là, y a beaucoup de crosseurs. Je ne mange pas mes mots, là. Il y a beaucoup de crosseurs. On voit passer des copies souvent, tout ça.
Il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils connaissent ça et qu'ils connaissent Sweet Fuck All aussi. Là.
Non, c'est ça, exactement. T'sais. Puis. Je pense que la place, là, la référence, ça reste le site de vente Reverb.
OK.
Ça s'appelle comme un Reverb, là. C'est Reverb.com.
OK.
Sur ça, c'est un site américain, mais qui vend aussi au Canada, qui vend bon. Puis c'est là qu'il y a le plus. Ce que moi, je sais, là, s'il y a des auditeurs qui ont des meilleures suggestions, n'hésitez pas à commenter sur Insta ou peu importe. Mais de moi, ce que j'ai vu sur Reverb, c'est là que tu vas être capable aussi de savoir la valeur sur le marché exact de qu'est-ce que tu vas payer pour.
OK. C'est un genre de Discog, mais version instrument.
C'est un peu ça, mais ils vendent aussi sur Reverb. Mais je trouve que c'est une belle place pour savoir à peu près ta guitare sur le marché, elle vaut combien.
Ouais.
Je la pluguerai pas parce que c'est pas professionnel. Mais moi, exemple, j'ai une guitare vraiment rare à vendre, OK? Présentement.
Okay.
Il y en a 500 dans le monde, ils en ont fait en 2012. Fait que, tu sais, trouve comment ça vaut pour le fun, toi, tu sais.
Ouais. Mais ça, il y a un livre que je sais que les magasins ont, Blue Book. Mais je sais pas si un civil peut. Mais un civil. Je parle d'un militaire, là. Mais je sais pas si un civil peut acheter un Blue Book.
Ben, c'est possible, mais encore là, est-ce que c'est représentatif? Parce que tu le sais comme moi, en train d'un magasin de musique, que le prix des instruments fluctue directement avec la valeur du dollar.
Ben oui,
directement.
Ben oui. Ah oui, effectivement.
C'est pareil pour les autos, c'est pareil. Bon, fait que tu sais, en temps réel, là, moi, je pense que la place, il ne faut pas te tromper, c'est Reverb.
OK.
C'est là que tu as la plus belle chance. C'est sûr que tu as eBay, tout ça, mais tu sais, souvent, eBay, des fois, il y a des compagnies professionnelles qui vendent, mais quand c'est par des. Tu sais, tu es capable de te faire une bonne idée, mais Reverb, c'est pour la musique, pour les musiciens, pour les geeks de musique, pour les passionnés. Fait que je vous conseillerais, là, si vous cherchez un instrument ou vous avez justement un deal, là, tu veux acheter ça de ton mononcle, là, une vieille affaire, puis c'est pas trop, puis tu sais, tu veux payer le juste prix, mais en même temps, pas y payer 2 000 $ de trop parce que tu sais, tu veux, bon. Je vous conseille pas mal d'aller. Moi, en tout cas, c'est une référence, puis je trouve à date que ça fait du sens.
OK.
Ça fait du sens, oui.
Ah, parce ben
que
c'est
tu sais
bon.
En temps réel comment ça se vend sur le marché. Puis tu sais comme moi qu'un marché, peu importe le marché, ça peut être volatile, comme je te dis, tout dépendant.
Ben oui.
Tout dépendant du dollar, comme je te dis, puis bon, mais c'est quoi qui est à la mode, c'est un site, c'est quoi qui est ici, c'est quoi qui est ça, tu sais. Parce que là, présentement, OK, là, bon, c'est là, c'est telle guitare à la mode, mais est-ce que ça se peut que dans 5 ans, il va y avoir un nouveau band X, que j'ai aucune idée, qui va débarquer, puis que là, tout d'un coup, ça va être, ça je sais pas, moi, ça va être les Paul Reed Smith 85. Ça va être ça, là.
Ben, j'allais dire, tu sais, là, on est peut-être trop le nez proche de l'arbre pour voir la forêt, là, mais je serais curieux de voir, avec le décès de Van Halen, le stock signature de Van Halen, comment que les prix ont dû monter depuis qu'il est mort.
Je serais curieux de voir. Ouais.
Parce que la journée qu'il est mort, là, il y avait deux sortes de poses que je voyais. Premièrement, c'était tous des musiciens. Il y avait ceux qui disaient Van Halen, c'était une de mes influences quand j'étais jeune. Tu sais, mon père m'a fait découvrir ça. J'écoute ça depuis les années 80. Puis t'avais les autres qui posaient leur ampli en disant bon, ben, je torche mon ampli de Van Halen aujourd'hui parce que, tu sais. Je serais curieux de voir l'incidence sur le prix de ces amplis-là avant puis après sa date de décès. Je suis sûr qu'il y en a une, peut-être pas aussi significative que ça, mais je suis sûr que ça a eu une incidence sur le prix.
Ah, je suis convaincu. Honnêtement, j'en ai deux signatures de Van Halen, puis je suis même pas allé voir. Je me trouvais... Ouais. Je trouvais ça trop... trop rapace avant. Je me sentais pas éthiquement correct.
Tu t'es gardé une petite gêne en gars équilibré et balancé que t'es. Je te comprends tellement.
J'ai dit, je pense pas que je le fasse bientôt, mais pas de suite. Ouais. Là, je me suis dit, regarde. Ben, je sais pas, je pense que c'est à toi, je te l'avais envoyé. Il y en a un champion qui a mis des pédales à effet de Van Halen la journée qu'il est mort avant.
Oui,
détruire sur Facebook. Puis enlever son pouce après, puis tu sais quoi, c'est rare, mais j'ai été un des premiers à l'insulter. Tu sais, ben voyons donc, man.
Ben oui, c'est calme.
Parce que tu être rapace, disons-le, c'est le bon mot, c'est ça, tu sais.
C'est carrément profiter de la situation, dans une situation comme ça, là, c'est carrément profiter du momentum de la situation.
Ouais, puis ce qui est un peu dégueulasse pour te faire 100$ de plus, c'est une distorsion, là, tu sais.
Ben oui.
Fait que c'est ça, fait que bref... Okay. Vintage, oui, mais pas à tout prix.
Excellente chronique. C'est bon. Ben, un gros merci encore une fois.
Ça fait plaisir.
Fait que nous autres, on s'en donne rendez-vous dans deux épisodes.
Yes, seulement.
Excellent. Puis là, hey, c'est vrai, on rappelle aux gens aussi d'aller voir le compte Instagram du show parce que là, j'imagine t'as envoyé. Je te dis ça brûle pour point en enregistré, mais j'imagine t'as envoyé du stock vintage en photo, justement. Là.
Ben oui.
Excellent. Donc, allez faire un tour sur la page Instagram, chers auditeurs. Puis nous autres, on s'en reprend avec Doom dans deux semaines.
OK.
Salut, là.
Salut.
Et c'était la chronique Gear avec Doom Tremblay. Et là, nous autres, on s'en va au bloc musical avant d'avoir la chronique à PY. On s'en va entendre un groupe italien qui s'appelle Irpus. La pièce est parue sur un album en 2005 avec un nom imprononçable et le titre de la chanson, c'est Tributo di Sangue. Yeah. Donc, salut PY, comment ça va?
Ça va top shape. Je t'ai amené trois petites découvertes cette semaine. J'espère que le monde va aimer ça parce que je le dis peut-être souvent et je le redis, mais cette chronique-là me permet d'écouter de la musique comme je n'ai jamais écouté et je capote bien là.
Mais tant mieux, puis c'est ça, moi aussi, ça me fait découvrir des affaires, des bands que je connaissais pas, puis ou à la limite, tu sais, un nouvel album que je savais pas qu'il allait sortir, fait que tant mieux si ça fait ça pour les auditeurs aussi.
On roule, comme ils disent.
On roule certain. Et là, ben écoute, comme à l'habitude, tu nous fais un top 3, il y a eu quand même pas mal de nouveautés, mais c'est ça aussi, j'ai un feeling... dans le fond, depuis, comment je pourrais dire ça, les derniers mois, il y a vraiment eu un gros boost de sortie comparativement à le restant de l'année. Tu sais, je sais pas si t'as été, si t'as remarqué ça aussi de ton côté, là. Il me semble qu'on est inondé vraiment de nouveautés. C'est le cas de le dire.
Non, effectivement, il y a tellement de stock qui sort, puis on dirait, ce que je remarque de plus en plus depuis les derniers mois, puis en écoutant aussi les chroniques à Michel, puis on était vraiment attentif à ça, on dirait que tout plein de petits labels, comparément à ce qu'on vit au Québec, ils font un drop de plusieurs sorties à tous les mois. Fait que je me dis, calique, il y a donc bien de la musique qui se fait. Ça n'a aucun bon sens. Il y a beaucoup de scrap, là. Mais il y a souvent des bijoux un peu partout.
Ben exact, c'est comme pour deux, trois projets pas bons, il y a au moins un bon projet. Mettons pour deux projets pas bons, il y a un bon projet, puis t'as un quatrième projet là-dedans qui est vraiment bon, qui va sortir du lot, tu sais. Mais moi aussi, j'ai remarqué ça, là, les labels qui sortent ça en batch, j'ai un peu le feeling que c'est le contexte international actuel qui a un peu amené ce modèle-là. C'était pas comme ça avant.
Ben, me semble que non. Puis, tu sais, on dirait que aussi, de plus en plus, les labels se spécialisent dans leur propre affaire. C'est très cool, tu sais. Il y en a qui font que du paint. On en a des exemples ici au Québec aussi. Il y en a qui font que du vinyle. Il y en a qui font un peu n'importe quoi. Mais, tu sais, on dirait que, mettons, un album va sortir sur tel label en vinyle, tel label en cassette. Puis, c'est quand même un consensus de dire que c'est bon. Si ça mérite le traitement vinyle, même s'il y en a qui ne le méritent pas et qui l'ont pareil.
Ouais.
C'est comme plus un statement que faire du CD-ROM, mettons.
Ouais. Je te suis. Mais tu sais, le fait de sortir justement plusieurs sorties d'un coup, pas tant les groupes qui vont sortir ça sur deux, trois labels en même temps, mais. Un label qui va sortir deux, trois parutions d'un coup, tu sais, notamment, tu sais, Sepulchral le fait, là. Il fait depuis longtemps. Il y a beaucoup de bands qui sont signés sur le label et tout, mais c'est pas toutes les compagnies qui pouvaient se permettre ça avant. Puis maintenant, c'est vrai, c'est quelque chose qui est plus commun, on dirait. Je sais pas, j'ai comme un feeling qu'il y a eu un changement là-dessus. Je suis plus vraiment dans le seul côté de production, fait que je peux pas vraiment en témoigner, sauf que le feeling que j'ai, c'est ça. Fait que si toi aussi tu remarques ton côté, pour ce qui est du, comme tu dis, là, des bands qui sortent de quoi en vinyle, puis que le traitement vinyle est peut-être moins mérité, il y a aussi, comment je pourrais dire, c'est une question de contact aussi, puis des fois t'as des labels qui sont... Qui préfère faire affaire avec des plus petits bands, mais avoir une bonne connexion avec la personne. Puis, ben, tu sais, parce que c'est un chum, il va le sortir. C'est le genre d'affaires qui arrive. Rendu là, bon, est-ce que ça sort en format vinyle parce que ça mérite, comme tu dis, est-ce que ça mérite vraiment ce traitement-là? Ça, c'est une question d'appréciation, je pense, ben.
Ouais, puis, je pense aussi, comme tu dis, t'sais, premièrement, oui, des drops de 1, 2, 3 releases, ça se fait, mais il y a aussi des drops de 4, 5, 6, 7 releases. Là. Puis c'est rarement tout du même endroit. Fait que ton point international, il n'y a plus de frontières, en fait.
Oui, effectivement, c'est ça. Ah oui, ça, c'est un tournant qui s'est définitivement fait dans les 10 dernières années. C'était déjà amorcé avant. Mais ça l'est vraiment plus aujourd'hui. Ça l'est plus que jamais, dans le fond.
Puis c'est positif pour la musique en général.
Oui, oui. Ben oui, puis c'est bon pour les groupes. Là. C'est profitable. Si c'est profitable aux groupes rendus là, c'est tant mieux. Tant mieux. L'industrie a vraiment été trop longtemps juste dans les mains de... une petite poignée de personnes. Maintenant, c'est les bands qui ont pris le relais et qui ont repris le contrôle de leur stock. Ça, regarde, les personnes qui jouent de la musique qui peut être contre ça.
Puis, tu sais, t'as pas besoin d'être un label majeur pour te permettre de faire ta petite affaire de ton côté. T'sais.
Non, exact. Ben, ça s'est beaucoup démocratisé. Ça, puis la façon de s'enregistrer, là, ça s'est très, très démocratisé dans les dernières années. Ça fait ça même que ça fait au moins 15 ans que c'est comme ça. Puis ça permet un peu à tout le monde, autant le monde qui ont du talent que ceux qui en ont pas, de s'enregistrer, tu sais. Fait que regarde, puis je dis ça, puis je suis chez nous avec ma carte de son, mon micro, tu sais, puis mon ordi, puis on tape ça comme ça, là, on fait aussi partie du lot, là, tu sais.
Mais la différence ultime, c'est que si tu n'as pas de talent, ça paraît.
Oui, ben oui, effectivement.
Ça va tout le temps paraître. Fait que, tu sais, le produit final, il fait fi de la qualité du band.
Exact, exact. Et là, ben là, parlant de qualité, toi, tu es allé me chercher 3 tonnes de qualité. Écoute, ton numéro 1, là, ben ton numéro 1, je sais pas si c'est ton numéro 1 ou c'est une de tes 3 sorties, bref, c'en est une que j'ai pas pu entendre parce que, bon, le contexte fait que j'écoutais ça à job, j'avais pas accès à Bandcamp. Je te laisse aller avec ça, on va starter avec celui-là.
Oui, tu l'as pas écouté, mais honnêtement, là, je t'invite vraiment à réécouter l'extrait qu'on va faire jouer, puis de vraiment découvrir ce band-là. C'est un band qui s'appelle, on va l'appeler TRA, T-H-R-A, TREMA, ou TRA.
Ouais. Avec un roulé, probable.
Ouais, puis ils ont lancé l'album qu'on va sûrement massacrer le nom, qui s'appelle Novej Kalm Jeb. J'ai essayé de trouver une traduction française pour ça, puis je suis pas capable. En tout cas, Google n'est pas capable de traduire ça. On dirait plusieurs langages. En tout cas, il a-tu inventé sa propre affaire en mélangeant plein d'affaires? Bonne question.
Ouais, mais des fois aussi, par rapport à ça, là, c'est peut-être rien qu'un mot de slang local ou tu sais une expression qui est pas. Le groupe est suédois, je pense.
Ben, on sait pas.
On sait pas qui, parce que ça a l'air d'être du suédois, là, de la façon que c'est écrit, ou c'est du norvégien ou du suédois, mais bref, tout ça pour dire que c'est peut-être un mot d'argot, tu sais, puis qu'il n'y a pas vraiment de traduction. On a plein de mots d'argot en français aussi, là, fait que c'est peut-être une expression tout simplement qu'on comprend pas. Mais bref, musicalement, c'est dans quel créneau, ça ressemble à quoi?
Par exemple, ça décrive comme du atmosphérique black metal, mais honnêtement, j'en retrouve pas ça nécessairement là-dedans. La sortie dont je vous parle, c'est sortie le 3 novembre 2020. C'est disponible sur Bandcamp, totalement gratis, encore une fois. J'aime bien ça, les affaires gratis. Puis pour l'instant, le gars est indépendant.
Okay.
Il a quand même sorti un album, un full en avril.
Okay.
Il est aussi sorti au niveau digital, qui était pas mal plus long. Puis là, il nous sort un EP quelques mois plus tard. Donc, le premier full-length, oui, je comprends l'atmosphérique, là, mais c'est comme si on... C'est pas de l'atmosphérique pur, c'est du black metal avec des passages atmosphériques.
OK.
Comme on disait, cette bande-là, je sais pas d'où ce qui vient, je sais pas qui ce qu'il y a dedans, parce qu'on a aucun détail là-dessus. Une affaire intéressante, par contre, c'est que plusieurs bands qui sont quand même renommées mettent l'image de cette band-là, réfèrent à cette band-là dans leur story Instagram, sur leur page Facebook. Fait que je me dis, il y a probablement un hype qui se développe autour de ce band-là, tranquillement, pas vite. Fait que checkez vos affaires si vous aimez ça, parce qu'ils devraient probablement avoir des sorties physiques à un moment donné.
Okay.
Puis c'est pour ça, entre autres, que j'ai appelé cette bande-là, je lui donne tout le temps des petits surnoms, je l'ai appelé le Jack in the Box, parce qu'il sort un peu de n'importe où. C'est comme quand tu crains que la petite patente et que le clown sort. Là.
Mm-hmm.
Yes. Ça me fait penser à ça.
OK. Mais une surprise agréable, bref.
Oui, vraiment. Okay. En fait, je pense que j'ai vu la première fois cette bande-là. Je pense que c'est Tivo Pose Records qui a mis ça dans sa story, ou Deadpool Production. Bref, ça a attiré mon attention tout de suite. Puis en l'écoutant, j'ai fait waouh! C'est quoi de très complet? Au niveau de la guitare, là, c'est très présent. Puis il y a aussi un accompagnement au synthétiseur ou au piano qui vient comme appuyer ça. C'est une musique qui est très, très complète. Il y a un petit côté aussi un peu ludique là-dedans, là, tu sais, un petit synthétiseur léger. Puis tout est vraiment bien balancé, même si c'est quand même du black qui est un peu creux. Là.
OK. Ah, je vais aller porter une oreille à ça.
Puis tu feras bien attention, une affaire que j'ai beaucoup aimée, c'est que les pièces sont quand même longues, puis au travers de la pièce, tu sais, ça pourrait être monotone, ça pourrait être répétitif, mais on dirait qu'à chaque moment, ce que tu t'en attends pas, il est capable de kicker ça, t'emmener ça ailleurs. C'est comme si les pièces étaient en plusieurs phases.
Okay.
Fait que ça fait une musique qui est très, très le fun à écouter, on s'ennuie pas, même si les tunes sont longues. C'est pas du progressif non plus. Mais en tout cas, c'est dur à décrire, mais les gens vont probablement...
C'est-tu au niveau des arrangements que tu parles, dans le fond, que ça va te donner justement le côté répétitif et pas là, puis ça t'amène ailleurs? C'est, dans le fond, on est dans un certain pattern, puis on fait évoluer la chanson.
C'est ça. Il redécolle dans un autre veine qui est quand même très proche. Tu n'as pas l'impression de te perdre dans tout.
Ah, c'est intéressant.
Ouais, c'est très, très, très bien construit, je trouve.
OK. Bon, ben on les salue. Et là,
ben, oui.
Et là, nous autres, on s'en va entendre un extrait avec un titre qui fait presque une ligne sur ton document. Écoute, je te laisse, t'as pas le choix de te planter avec un titre demain, je te laisse te planter, je te regarde aller.
Comme le gars au l'ombre qui manque de roue, pas de jeune gars. Bon.
Exact.
Alors, on va écouter Toutajna Edwin Daha Ematape Bi Inabi.
OK, et donc, sur ce nom de chanson imprononçable, on y va avec ton numéro 2 du mois. C'était de quel band tu voulais nous parler?
Je vais vous parler de, on va le prononcer Mula, là, ou Mula, peu importe, je suis pas très très bon en arabe, mais on va dire Mula.
Ouais, je pense que c'est Mula.
C'est un band qui a sorti un album dont le nom est pas mal en arabe, donc imprononçable, mais j'ai réussi à le traduire, puis ça, en français, ça traduit comme étant « Pourquoi tu ne vois pas ça? »
Fait que là, très bon titre, je trouve.
Ouais, c'est quand même très intéressant. Mula, c'est un band qui se catégorise tout simplement dans le black metal, dans le raw black. Ils ont sorti ça le 3 novembre 2020. Mm-hmm. Même journée que l'autre avant, d'ailleurs. L'album est présentement disponible sur Bandcamp, encore une fois, gratis. Et il y a un CD qui devrait sortir de ça au mois de février 2021 sur un label que je ne connaissais pas pendant tout, qui s'appelle Careless Records.
OK, moi non plus, je ne connais pas.
cette release-là, je l'ai surnommé amicalement le papier sablé pour le mental, parce que c'est... En tout cas, on en reparlera plus tard pourquoi j'ai appelé ça comme ça. C'est un band dont l'origine est difficile à dire parce que sur l'encyclopédie Metalum, c'est marqué qu'ils viennent de la France. Sur leur bandcamp, c'est marqué qu'ils viennent de l'Irak. Donc, est-ce que c'est des gars qui viennent vraiment de ce milieu-là ou c'est des gars qui personnifient un peu cette culture-là? Je ne sais pas. C'est un band qui est composé de deux gars et ça traite beaucoup, en fait, principalement de l'islam. C'est un band qui s'est lancé en 2020, qui a déjà deux fulls, un EP puis un single. Donc le premier full est sorti en avril, l'EP en avril, puis là en novembre il ressort le deuxième full.
Bordel, OK.
Quand même très productif. Et ce que j'ai aimé, j'ai vraiment fait travailler mon Google Translate de ce temps-là. Quand tu vas sur chacune de leurs releases, il y a vraiment des petits caractères en bas. Et j'ai traduit ça, ça se traduit comme étant « Nous ne sommes pas un groupe terroriste ou des fanatiques religieux. Nous avons juste essayé de vous donner un feeling musical de l'atmosphère épeurante du Moyen-Orient ces jours-ci, avec tous les stéréotypes modernes. Si tu le sens, on a tout fait correctement. »
Hey, c'est bien, c'est bon, c'est bien... Ben, regarde, ouais. Je trouve, avant de savoir ça, là, à ma première écoute du Ben, sur le coup, je me suis dit, bon, OK, tu sais, ça sonne... On s'entend, là, ça sonne black metal, en gros guillemets, dans le sens où ça sonne un peu générique, tu sais, des patterns avec des demi-tons et tout. Ça réinvente pas la roue, mais ça roule bien. C'est ça, côté musical, il y a comme deux, il y a deux patterns, tu sais, t'as un genre de riff, t'as le riff comme principal de la tune, puis t'as un deuxième riff qui est un peu plus, le genre de refrain où ils ont découvert un delay, puis là, ils ont fait un cri, puis que le delay, ça, je trouve, c'est un peu abusif, là, cette boîte-là, mais
ouais,
bon...
Ouais, c'est ça.
Mais c'est parce qu'ils ont abusé du call puis ils ont abusé de l'effet. Sauf que bon, c'est quand même, ça rentre d'un temps, puis c'est quand même agréable à l'oreille là. Puis mais c'est ça. Côté, c'est du black metal classique. Sauf que là, moi, où j'ai accroché positivement, c'est puis regarde, je le dis souvent autant dans ce macabre que pour le souterrain, c'est important en esti l'imagerie puis la pochette que tu vas mettre sur ton album. Et plutôt l'album en tant que tel, tu sais, la traduction que t'as, c'est pourquoi tu ne vois pas ça. La pochette, c'est carrément une femme une femme voilée dont on voit juste les yeux. Tu sais, puis il y a tout le côté, ne serait-ce que dans le logo, de la simplicité de toute l'art islamique et tout. C'est très, très inspiré justement de l'art islamique, puis la photo des yeux de la femme, je trouve ça malade parce que une des raisons du pourquoi les femmes dans l'islam sont obligées de se voiler, notamment les cheveux, c'est que c'est un peu vu comme un attrait sexuel. Sauf que, tu sais, entre toi puis moi là, les yeux c'est bien pire que les cheveux.
Ben clairement.
Tu sais, moi si y a une affaire qui m'attire de c'est toute l'affaire que j'ai trouvé beau de toutes mes blondes, c'est leurs yeux, tu sais, fait que tu vois les yeux sur la pochette, que c'est ça qui est mis en évidence avec un titre comme ça, je trouve que c'est un genre de gros fuck you et je trouve que c'est cohérent avec l'espèce de discours du groupe. Fait que je sais pas toi qu'est-ce que t'en as pensé là, mais moi c'est vraiment, ça m'a vraiment accroché, puis j'ai vu la pochette après avoir entendu. Fait que tu sais, j'ai entendu la musique, je fais OK, je vois un peu, tu sais, vers où ça va. Puis, j'aime bien les bands qui ont cette tendance un peu orientale-là. Ils ont quelque chose de différent à dire, puis peut-être pas à dire dans le sens où, tu sais, je comprends pas l'arabe et tout, sauf que leur façon d'orchestrer leur musique, c'est vraiment différent de ce qu'on fait, nous, ici, en comme occidentaux. T'sais, là, eux, si justement tu disais, bon, il y en a qui ils marquent sur certaines places qui viennent d'Irak, ils marquent qu'ils sont en France. Bon, c'est peut-être des gens qui ont migré justement en France et tout. Là. C'est peut-être des Irakiens qui ont migré dans les dernières années. Fait, il y a une certaine compréhension du système occidental, mais avec l'expression orientale dedans. Moi, sérieux, juste pour ça, j'ai trouvé que c'était un bon. C'était une bonne mise en marché, c'était un bon blend. Évidemment, c'est sûr que si la toune était de la merde, ben ça serait. J'aurais arrêté là, tu sais. Sauf que la toune est bonne, mais je trouve que ce qu'il y a tout autour est aussi. Vient comme appuyer puis faire un push-up, tu sais. Le push-up, là. Tu sais, le bend.
Oui, puis tu sais, la pochette est en deux tons. C'est du gros noir et blanc.
Ah, le classique. Le classique.
Le close-up est vraiment sur les yeux, puis tu peux vraiment analyser le regard de la personne parce que la photo est en très bonne qualité. Fait que, tu vois que c'est un regard un peu désolant. Ça m'a fait penser aussi quand je regardais les autres pochettes. Il y en a une que c'est un espèce de soldat, ce que tu vois juste la tête, tu vois son gun dépasser, il y a son voile, mais dans ses yeux, tu vois que ça va pas.
Ouais, ouais.
Ou que, tu sais, c'est une photo qu'il est obligé de prendre ou que ça épanne pas d'être là. Fait que, tout ça, je trouve que ça va dans le pari de on veut te faire sentir comment, probablement qu'on se sentait là-bas. Ou s'ils l'ont pas vécu, ben, ils ont vraiment une bonne idée de comment ça peut se passer là-bas. Puis, même au niveau musical, tu sais, moi, j'ai eu bien de la misère à écouter cet album-là au complet. D'une traite, en fait, parce que j'ai trouvé ça agressant. La guitare, là, quand on dit rasoir, là.
Ah oui!
En sacrifice, là.
Mais c'est du bon rasoir, là. C'est du très bon rasoir.
C'est du rasoir clair qu'on entend, mais tu sais, ça vient tout le temps, ça, j'appelais ça le papier sablé, ça vient tout le temps grincer. T'as le vocal aussi qui est quand même très agressif, très. On dirait que tout est mixé dans le taper dans cette domaine-là.
Ouais.
Puis ça te fait sentir insécure. Là.
Mais c'est. OK, je viens de l'avoir la pochette du premier full, là. Puis effectivement. Mais c'est ça, tu sais, il y a un côté très. C'est black metal trad, là. Le son des guitres rasoirs, mais c'est un rasoir. aigu, pas des fois t'as un son de guitare plus boomy là c'est vraiment les guitares des guitares bright, mais ouais. Le son des guitares, il m'a fait un peu penser à certains albums de Carpathian Forest.
Ouais. Oui, oui.
C'est une genre de brillance ou clarté là, dans le son. Puis, sauf que, évidemment, là, le mix est crasse, là, mais ça. Non, c'est au service de la toune, j'ai bien aimé. C'est le genre d'affaire, je vais aller justement écouter l'album. Puis là, ça, si j'ai bien compris, il est aussi sur Bandcamp.
Totalement gratis encore. Toutes les sorties de nous-là sont gratuites.
OK.
Puis, tu sais, c'est un band que j'en regarde depuis un certain temps, mais j'avais hâte qu'il sorte de quoi justement pour en parler.
Good. Moi, j'aime bien, comme je disais, c'est les groupes qui ont l'inspiration par rapport à ça. Puis, il y a un gros mouvement. Là, je ne sais pas si c'est le cas pour eux, mais il y a un gros mouvement dans le black metal, j'allais dire arabe, là, mais tu sais, il y a un gros mouvement critique de l'islam qui se déverse dans le black metal. Fait que c'est quand même de quoi d'intéressant, ce terreau-là.
Ben, c'est bien tendu. Puis, tu sais, il aurait pu aussi tomber dans une ambiance de guerre, tu sais, puis de rentrer dedans, puis de comme si on était dans un tranché avec eux autres, mais non, tu sais, il y a quand même une émotion là-dedans, puis c'est plus, on vit bien l'ambiance.
Effectivement. Fait que là, dans le fond, on va entendre un extrait de ça. Je te laisse. Ah ben ouais, je l'ai dit, je te laisse présenter à toi.
C'est la pièce titre de l'album, fait qu'elle s'appelle évidemment Pourquoi tu ne vois pas ça?
Et donc, ça, c'était Mula, le groupe qu'on sait pas trop si c'est franco-irakien. Et là, ben, on s'en va entendre, c'est-à-dire, on s'en va pas entendre. Tu vas nous présenter ton troisième album du mois.
Oui, le troisième et non le moindre, c'est l'album du groupe qui s'appelle Forest Shrine, qui a sorti son album 2 le 1er novembre 2020. Forest Shrine est un groupe qui se qualifie de Dungeon Synth / Atmospheric Black. L'album est disponible sur Bandcamp, gratis évidemment, et là, il n'y a pas encore de label qui se sont emparés de ça.
OK.
Forest Shrine, c'est un groupe que j'ai qualifié, je me suis noté, un voyage en direct de tes oreilles. Je vais expliquer pourquoi plus tard. Forest Shrine, c'est un groupe qui vient de Suède. C'est le side project d'un gars qui a un band qui s'appelle Werenvia, que je ne connaissais pas à tout, qui fait aussi de l'atmosphérique black. Et ce band-là est actif depuis 2020, donc c'est leur deuxième album qu'ils ont appelé 2. Puis ils viennent d'en sortir un autre tout récemment, qui parle de l'hiver, je pense. C'est... En tout cas, ce que le gars met sur le Bandcamp, c'est il a écrit c'est vraiment un album de Dungeon Synth comme j'aime que ça sonne.
Il s'est gâté, dans le fond.
Il s'est gâté parce que le premier était vraiment plus atmosphérique. Et c'est souvent deux styles qui se mélangent, malgré que ça peut être très, très clair, malgré que ça peut être pas très clair. Mais moi, ça m'a vraiment éclairé sur, en tout cas, s'il l'a bien fait, malgré que je connais pas énormément de Dungeon Synth, que c'est comme ça qu'il faut que ça sonne. La qualité principale de cet album-là, je trouve, c'est qu'il est capable de nous emporter totalement ailleurs, dans ses ambiances, malgré que la musique est quand même assez simpliste. Il n'y a pas vraiment de batterie, il n'y a pas vraiment de vocal. Fait que, tu sais, c'est assez spécial à écouter, je trouve. Puis il y a aussi un petit côté semi-médiéval, je trouve, avec la tambourine, avec les tambours.
Ouais.
Tu sais, le clavier vient accompagner tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est comme si on fermait la switch, puis on décolle avec lui. Puis moi, j'ai adoré suivre cet album-là d'un bout à l'autre. Là. C'est très relaxant. C'est très jovial aussi en même temps. Fait que je sais pas ce que t'en as pensé.
Moi, j'ai trouvé ça envoûtant. Je pense que le mot, c'est envoûtant, dans le sens où il y a vraiment une ambiance qui se crée, tu rentres dans la bulle, puis la toune, elle passe, puis c'est un mood, tu sais, puis il y a un gros côté, tu parlais tantôt médiéval, où il y a un gros, gros clin d'œil à Summoning, mais version un peu plus crasse, puis un peu moins travaillée.
OK.
J'ai comme un feeling, tu sais, j'ai un... par certains passages, j'ai eu un feeling de Summoning plus crasse, puis plus raw, là, tu sais, moins justement, tu sais, Summoning, c'est des grosses couches de c'est souvent ce qu'on appelle un build-up, là, tu sais, on commence puis on rajoute une couche d'instrument, puis une couche d'instrument, puis une couche d'instrument, puis à un moment donné, on a une tune qui est dense, qui est puissante. Là, c'est vraiment le côté moins travaillé dans ces couches-là, mais il y a vraiment un petit clin d'œil au côté musical, un peu tu sais, quand tu disais, tu sais, jovial. Je dirais pas jusqu'à dire joyeux, mais tu sais, entraînant. Tu sais, il y a une couple de patterns entraînants puis tout, puis je trouve que le mélange entre le son de clavier qui est assez... tu sais, je veux dire, un son de clavier, tu peux pas être crasse, là. C'est un son de clavier que tu rends dans une carte de son. Tu sais, à moins que tu le tapes dans un ampli, là. Comme dans les années 70, tu pluguais un orgue d'un ampli à lampe, tout veut fendre, c'est ça qu'on aime. Sauf que là, on est vraiment ailleurs, là. Mais le restant de l'instrumental est assez... Il y a un son, justement, qui est enrobant, englobant, là. Moi, j'ai bien aimé aussi, là. C'est quelque chose... Sur le coup, je savais pas, tu sais. J'avais pas ouvert... ta feuille, pour les auditeurs, vite. Puis ouais, il m'envoie tout le temps une feuille avec, tu sais, les infos puis tout. Puis j'avais pas ouvert la feuille encore, fait que j'avais pas vu, tu sais, Dungeon Synth, Atmosphérique Black Metal, fait que j'ai vraiment cliqué sur play, puis là, je me dis, OK, ça va starter. Puis là, finalement, je fais, ah non, c'est vraiment le mot de la toune, c'est vraiment un gros pain de son. Puis c'est ça, si tu te laisses embarquer, c'est assez facile de te laisser embarquer, mais faut que tu aimes le genre, puis que tu donnes une chance au genre, là.
Exactement. C'est sûr, c'est très tranquille. Tu ne démoliras pas à face avec ça.
Non, c'est ça. Si tu veux écouter du Marduk, t'es vraiment pas dans le bon mood pour ça. exemple, là, mais si tu veux. C'est le genre d'album que j'ai l'impression qu'en te couchant, là, c'est une bonne loupe, puis t'es capable de partir, là.
Oui, même pour lire, c'est très, très relaxant. Je ne sais pas comment dire ça, pas autre que relaxant.
Oui, marcher. En se couchant, c'est pas une musique endormante, là, mais tu sais, je veux dire, il y a vraiment... c'est englobant, là. Moi, c'est ça qui est venu me chercher, à vrai dire. Parce que,
ça peut te permettre de partir dans tes pensées sans te sentir tout le temps comme un peu dérangé.
C'est ça, puis c'est simple tout en étant chaleureux, tu sais, comme beat, parce que c'est pas des gros riffs puis tout, sauf que justement on installe l'ambiance puis tranquillement pas vite t'embarques dans la bulle, puis c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant, super bon album.
Puis tu sais, souvent un des pièges je pense là-dedans, c'est que toutes les tunes se ressemblent, tu sais.
Oui,
dans
ben
celui-là,
oui,
on dirait que les tunes ont toute leur histoire, tu sais, je sais pas comment dire ça en français, là, mais le gars est...
Pousse-nous-le en taille, man. Il n'y a pas de trouble.
Pousse-nous-le en taille. il est le bienvenu, mais il n'attire pas trop sa visite.
Ouais, ouais. Ouais, je comprends.
Des 20 minutes là-dessus, mais tu sais, non, il est capable de couper, puis il est capable de créer son histoire, puis tu sais, même s'il n'y a pas de vocal, il n'y a pas rien, là, chaque pièce a un peu son essence.
Mais il n'y a pas de remplissage. Des fois, il y a des albums, tu sais, il y a des albums, des fois, en anglais, c'est des fillers, là, qu'on appelle. Il n'y a pas ça. C'est vraiment, le riff est là parce qu'il a besoin d'être là, puis ça build tranquillement, pas vite. Non, c'est ça. Il y a une ambiance un peu. Tu te promènes, là, pendant, tu sais, au courant de l'album, là. Ça, c'est une force, parce que justement j'ai eu la même réflexion que toi par rapport au fait que c'est facile de tomber dans le piège de la redondance. Puis tu sais, dans un style comme ça, en plus, qui est un peu plus Tu sais, le Dungeon Synth, là, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Là. C'est bien rare le monde qui dise ah, moi j'aime ça un album ou deux. Là, c'est, les gens aiment vraiment beaucoup, ou bien les gens embarquent pas pantoute habituellement. Là. Dans tout cas, là, ce que moi j'ai cru remarquer. Là. Puis, ben, c'est une des affaires qui fait que t'embarques pas, souvent avec des bands, j'ai l'impression, c'est parce que t'as l'impression d'écouter la même tune à chaque. Tu sais, il y a 8 tunes, puis t'as l'impression que t'as écouté la même pendant tout le. L'album.
Tu te rends compte que pendant 6 minutes, voyons, c'est tout le temps le même tambourine, c'est tout le temps le même flûte, c'est tout le temps. Là,
c'est
ça. Tu te fatigues. J'en ai écouté beaucoup. Je voulais présenter un album de ce genre-là, cette chronique-ci.
OK.
En grande partie parce que si les gens apprécient le style, à chaque dimanche, la page Instagram ou probablement le groupe Facebook aussi, The Order of the Black Arts, qui est quand même assez connu pour présenter des nouvelles affaires au niveau du black crasse.
Okay.
C'est toujours les Dungeon Synth Sundays.
OK, OK.
Fait que les autres, ils poussent plein d'albums le dimanche. Là, je ne dirais pas un à l'heure, mais plusieurs. Fait que c'est le fun d'aller découvrir ça si les gens ont un petit intérêt caché.
Ouais, c'est bon ça. Excellent. Puis c'est un style qui gagne en popularité aussi, là. Tu sais, ça commence de plus en plus. On en voit passer des noms de bands, puis il y avait pas ça et tout. Il y avait moins, en tout cas du moins à Québec, il y avait moins ça avant.
Ben, j'ai fait une petite recherche sur qu'est-ce qu'on a de québécois de ce style-là. Tu sais, on a, oui, on a Neige et Noirceur qui fait beaucoup d'atmosphérique, mm-hmm. d'ambiance. T'as Monarque avec Sanctuaire qui en fait. Mais tu sais, c'est pas très réputé. Mais Michel, notre chroniqueur qu'on adore, m'a parlé de Graver End.
Ben oui.
Même Montréal qui dit, man, écoute ça, tu vas capoter.
Et en chaud, c'est encore, malade.
Je n'ai pas encore capoté, mais ils ont été au Skogan Fest, ça fait un an ou deux. Puis, si je me rappelle bien, c'est Mick Bradette qu'on connaît pour son travail dans
Exact. Exact, c'est Bradette. Puis, il avait fait. Il me semble que c'était au Skogan. Je l'ai vu deux fois en show. En tout cas, il me semble que c'était au Skogan. Puis, ouais, j'ai le feeling que c'est là. Bref, j'avais vraiment trippé parce que justement, c'était pas. Il était pas tombé dans le piège de la redondance et tout. Puis, sa mise en scène est super simple mais efficace. Puis justement, je suis allé le voir après le show pour lui dire hey, regarde, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça se démarque un peu à sa façon, je trouve.
Ben, on y souhaite bien du succès. Je sais qu'il y a sorti quoi en 2018, une tourne en 2019, mais en tout cas, je vais essayer de me mettre la main sur ce tape-là. Je pense qu'il n'est pas très cher sur Discord. En tout cas, s'il y a un auditeur qui l'a et qui veut s'en départir, ben, qu'il nous écrive.
Yes. Ben, on le salue.
On le salue d'avance. On salue M. Bradette aussi.
Ben oui. Et donc, là, pour clore un peu la boucle avec Forest Shrine, il y a une pièce en particulier que tu voulais nous faire entendre?
Oui, on va l'écouter. Untitled 2. Le gars n'a pas de titre, hein, c'est trop long.
Et c'était donc la troisième sortie du mois des coups de cœur à PY. Écoute, un énorme merci encore une fois de nous arriver avec du bon beat comme ça.
Ça fait plaisir. Puis là, c'était temps qu'on tape parce que je suis en train de préparer la prochaine. Il y a du stock, ça n'arrête plus.
Ben oui, puis avec le temps des fêtes, puis tout, ben c'est excellent. C'est excellent. On va avoir des nouveautés. Puis en plus, il y a plein de tonnes gratis. T'sais, pour le monde qui sont débordés d'un cadeau de Noël, allez downloader des albums gratis, ça va vous faire sauver un peu de cash, puis ça va supporter les bands pareil. Moi, c'est quand j'entends le monde capoter sur le côté de cash avec les bands. Le but, là, quand t'es un band, c'est que le monde écoute ta musique, t'sais, diffuser la musique, profitez-en, puis partagez-la, tu sais.
Puis, tu sais, quand c'est gratis, là, si t'aimes assez ça, tu vas l'acheter son titre.
Ben oui, mais c'est comme le band que tu disais que ça sortait en février. C'est-tu le premier?
c'est Moula qui est sorti.
C'est Moula, bon. Ben, tu vois, moi, Moula, c'est le genre de band qui aimait que ça les sorte. Je vais peut-être même commander ça, tu sais. Là, j'ai mon Holly Harrow qui est arrivé, là, que j'ai commandé par Régis. Là. Il m'envoie une photo tantôt. Je fais, oh yes, ça fait à peu près peut-être un mois. Là, j'avais oublié que j'avais commandé ça. T'sais, en plus, c'est ça. C'était une belle surprise. Là. Il m'envoie la photo du CD. Je fais, ah, c'est vrai, j'ai un cadeau qui m'attend.
Ah, il est-tu fin, ce Régis-là? Moi, il m'a vendu le tape de sommet. Quasiment donné.
Bon, hein, on le salue, lui, tout. Donc, un gros merci, V1, puis nous autres, on s'en donne des nouvelles dans deux épisodes.
OK, oui.
Yes, salut. Et c'était la chronique inondée par la nouveauté de PY depuis son téléphone à poche à Dolbeau. Et là, ben nous autres, on arrive en fin de show. C'est le moment de faire la ronde des remerciements. Donc, je tiens à vous remercier personnellement et au nom de l'équipe, à vous les auditeurs qui êtes là encore une fois cette semaine, qui êtes là au rendez-vous pour chaque nouvel épisode. Évidemment, si vous connaissez des gens dans votre entourage qui pourraient être intéressés par le show, par le contenu qu'on vous prépare pour chaque nouvel épisode, ben partagez-le, gênez-vous pas pour partager. C'est vraiment un par un qu'on essaie d'aller chercher notre auditoire et ben le monde du podcast commence à être un petit peu plus connu au Québec. Donc, pour ceux qui sont fans de musique et qui sont fans de sujets un peu underground, comme ce que nous, on couvre avec le souterrain, propagez la nouvelle. Propagez ça à vos proches. Donc, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner selon sur les différentes plateformes de Balado Diffusion. On est notamment sur Balado Québec, sur Apple Podcasts. On est aussi sur Stitchers et TuneIn, ainsi que Mixcloud, où on a une page où, évidemment, tous les épisodes sont répertoriés. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est des plateformes de Balado. Un gros merci à Moribond pour le logo, à Monarch et Angantyr pour les thèmes musicaux. Merci à Yaoi au montage et à la gang de CJMD qui nous back dans tout ça. Donc, un gros merci à tous. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.